La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, celui qui entre à Jérusalem en ce jour des rameaux. Bienvenue à toutes et tous ici dans ce lieu de prière. Bienvenue à la famille qui accompagne la jeune fille qui va recevoir le baptême aujourd'hui et qui est accompagnée avec sa grande famille ici. Bienvenue à vous tous dans ce lieu pour ce moment de fête et de joie que nous partageons avec vous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes en communion les uns avec les autres, quelle que soit la distance, quel que soit le pays où vous vous trouvez, quelles que soient les difficultés peut-être que vous traversez et qui vous empêchent d'être avec nous. Vous êtes avec nous dans la communion. Ensemble, aujourd'hui, nous allons ouvrir une semaine riche de tous ces textes de l'évangile de Matthieu. Et cet évangile nous fait découvrir tout le récit fondateur de ce qui fait le christianisme. De l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à son dernier repas, que nous évoquerons jeudi au foyer de l'âme, puis sa passion sur la croix, que nous relirons ensemble avec les catéchumènes qui vont confirmer leur baptême cette année et qui nous offriront cette lecture musicale vendredi soir ici, avec David Cassan et le chœur de l'oratoire. Et puis jusqu'à, bien sûr, ce jour béni de la résurrection que nous allons fêter ensemble dimanche, ici même, là encore avec un baptême. Alors bienvenue aux enfants aujourd'hui de l'éducation biblique, à leurs parents qui sont avec nous aussi dans cette assemblée. Bienvenue à vous. Vous allez ce matin entrer dans cette dynamique si particulière de la semaine qu'on appelle semaine sainte, parce qu'elle réunit tous les événements sans doute les plus marquants de la tradition chrétienne. Et nous aurons ainsi avec vos monitrices la chance de pouvoir parler avec vous de ce que c'est que ce moment particulier où Jésus entre dans la ville de Jérusalem et quelle est la signification de cette entrée. Aujourd'hui est un jour de joie à plus d'un titre, puisque nous nous acheminons vers le jour de la fête de la résurrection, mais évidemment avec toutes les nuances humaines, humanistes, qui traversent les textes bibliques qui nous sont confiés, pour que nous les étudions, pour que nous les traversions, pour que nous puissions les propager autour de nous avec le plus de clairvoyance possible. Nous nous réunissons dans le champ pour commencer ce moment de culte avec le premier chant qui est inséré dans le livre du psautier français. Vous avez toute la liturgie à l'intérieur avec tous les répons de la liturgie. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier répon. Nous louons le Seigneur avec le psaume 111. Louez le Seigneur. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur dans le conseil secret des gens droits comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il a donné de quoi manger à ceux qui croient en lui et mettent leur confiance en lui, ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant le patrimoine des nations. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ses directives sont sûres et pour toujours et à jamais inébranlables. Faites avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen. Je vous invite à chanter notre louange ensemble, le psaume 24 dans les psautiers français. Psaume 24, les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous apprend pour notre chemin. Jésus appela un enfant, le plaça au milieu des disciples et dit : Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Thank you. présentons-nous devant le Seigneur avec cette prière attribuée à un soldat, même si c'est une prière anonyme, un soldat durant la guerre de sécession. On aurait retrouvé ce texte sur lui. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Et je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les hommes. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée sur nos vies, quelles que soient les embûches, quel que soit tout ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il continue sans cesse à nous aimer. Et par l'entremise du prophète, il nous dit « Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. » Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voilà, je vais vous inviter à vous asseoir et nous allons accueillir maintenant la famille de la petite baptisée d'aujourd'hui. Je vais inviter ses parents et ses deux marraines à venir me rejoindre. Et bien sûr, la petite jeune fille dont je tais encore le nom, parce que nous le dirons ensemble au moment de son baptême. Voilà. Tu t'agrippes, tu te cramponnes. C'est difficile de venir se faire baptiser. Oh ! Tu vas voir, il n'y a rien de difficile. C'est que du bonheur. Alors, je vais inviter maintenant les parents de cette jeune enfant à venir lire avec les marraines la confession de foi qu'ils ont choisie pour nous. Et donc, c'est un choix qu'ils ont fait parmi toutes les confessions de foi qu'ils ont pu entendre dans les temples et lire ailleurs. Je vous invite à vous lever pour partager cette confession de foi. Alors, je vous donne un micro. Voilà. Ah non, c'est la confession de foi.
Je ne croirai jamais que Christ est mort pour moi. Je veux croire qu'il est vivant pour nous tous. Je ne croirai jamais en un Dieu qui serait là pour nous juger. Je veux croire en Dieu qui nous accepte tel que nous sommes. Je ne croirai jamais que l'enfant qui vient de naître porte le poids d'un péché qui eut lieu des millénaires avant sa venue au monde. Je veux croire en la positivité de la vie, au geste inaugural, de commencement absolu présent en toute naissance.
Je ne croirai jamais qu'il nous faudrait souffrir pour mériter demain un paradis. Je veux croire au bonheur de la vie, à la fragilité de l'existence, à la possibilité toujours donnée d'accéder à la vie éternelle. Je ne croirai jamais aux histoires de double nature, de trinité ou d'immaculée conception. Je veux croire à l'appel de notre Dieu, à la dignité humaine, à la liberté souveraine de la conscience. Je ne croirai jamais que la nature soit mauvaise et que le corps soit méprisable. Je veux croire que Dieu nous a donné la chance de la vie, la joie du corps fait pour aimer, le risque de la rencontre, l'espérance de ce qui vient.
Je ne croirai jamais en un Dieu qui ne serait présent que pour les seuls chrétiens. Je veux croire que Dieu est à l'œuvre dans toutes les cultures, qu'il parle au cœur de l'homme sans se soucier des frontières artificielles dans lesquelles nous nous emprisonnons. Je ne croirai jamais que la résignation et l'obéissance soient des vertus. Je ne peux croire qu'à la tendresse partagée, à l'avenir toujours ouvert, à ce royaume qu'il nous faut construire aux côtés de notre Dieu. Je ne croirai jamais que la volonté soit le dernier mot de la foi, que le savoir soit l'objectif de la vie, que les œuvres soient la mesure de l'homme. J'espère en ta présence et je te nomme Dieu. C'est ainsi que tu es là et je te dis ma reconnaissance. Amen.
Alors, soit j'ai des problèmes d'oreilles, ce qui est très possible, hein, c'est l'âge. Soit vraiment vous chantez très discrètement. Parce qu'en fait, c'est le jour des rameaux aujourd'hui. C'est le jour où la foule crie « Hosanna ». Alors, je vous invite à reprendre avec David qui va nous reprendre ça en beauté. Et je pense que là, on va vraiment entrer avec Jésus à Jérusalem. Je vous invite à chanter de nouveau. Merci beaucoup, j'ai beaucoup mieux entendu. Voilà, je vous invite maintenant à vous asseoir. pour que nous rentrions dans cette liturgie du baptême. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée, dit Jésus, dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Martin, Anastasia, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle, c'est notre espoir, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, dans ce baptistère, et c'est de l'eau tout à fait ordinaire. Rien de magique ici, rien de spectaculaire, rien de surnaturel. Il y a de l'eau ici, et l'eau, comme vous le savez, comme nous le savons d'autant plus aujourd'hui, dans notre société où nous voyons qu'elle manque à beaucoup d'êtres en ce moment même sur notre planète, l'eau est une denrée absolument précieuse et vitale pour nous tous. C'est donc un symbole de tout temps de vie renouvelée, de purification aussi. Cette eau qui permet de vivre et de se laver d'un passé qui nous pèse parfois. Cette eau aurait pu servir à laver les mains d'un enfant, peut-être même te laver les mains, peut-être faire pousser des plantes aussi, tu sais qu'on a besoin d'eau pour faire pousser des plantes. Mais avec le baptême, avec les paroles du baptême, cette eau devient eau du sacrement, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai aussi pour nos enfants, quand bien même ils n'auraient pas tout à fait, tout de suite, la conscience de ce que cela veut dire dans leur vie. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pour cela que le baptême est donné sans condition aucune. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui et il nous connaît chacun par notre nom. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Joséphine.
Joséphine, voilà, maintenant tout le monde sait que tu t'appelles Joséphine. J'en rajoute un petit peu, tu viens avec moi ? Voilà, tu viens avec moi. Alors Joséphine, on se connaît un petit peu. Et donc j'ai confiance en toi, je suis sûre que tu n'as pas changé d'avis depuis qu'on s'est vu. Non, tu veux toujours recevoir le baptême. Silence. Joséphine, est-ce que tu veux recevoir le baptême ?
Oui.
Bon, c'est bon. Alors, je vais t'inviter à te présenter devant ce baptistère. Tu es assez grande pour y aller toute seule, c'est magnifique. Hein ? C'est bien ? Alors, peut-être que vous pouvez entourer votre fille par ici, voilà. Voilà, venez, venez, venez. Alors, ne tournez pas le dos par ici. Vous savez qu'il y a peut-être des gens, je ne sais pas, en Australie, au Nouveau-Mexique. Alors, au Nouveau-Mexique, il me semble que j'ai quelques paroissiens aussi. Et donc, on a des gens qui vous regardent de très loin et qui regardent Joséphine tout de suite et qui partagent ce moment magnifique avec nous. Joséphine, ça va aller ? Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Joséphine, cette parole est vraie aussi pour toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est une promesse pour toi aussi. Alors, chers amis, maintenant, je vais vous inviter à prendre... Comment ? Ah oui, oui, pardon. Ah oui, non, tu as raison. Non, non, il y a des choses qui se font quand même. J'ai plus de bébé à la maison, alors j'ai perdu l'habitude, vous voyez, d'avoir ces petits gestes. Alors, Je vais maintenant inviter Martin à partager avec nous le texte qu'il veut nous partager. Voilà. Voilà.
Notre volonté de demander le baptême pour Joséphine a été guidée par plusieurs raisons, toutes aussi déterminantes à nos yeux. Il y a naturellement le désir de transmettre cette culture familiale, car la religion protestante revêt une importance particulière, que ce soit lors des célébrations, des grands événements, qu'ils soient joyeux ou tristes, de Noël, de Pâques, mais aussi plus simplement au quotidien. Joséphine, au-delà de l'héritage familial, l'engagement que nous prenons aujourd'hui est d'être à tes côtés, de faire de notre mieux pour t'aider à poser les bonnes questions, en nous gardant bien de t'imposer des réponses, de toujours encourager ta liberté de penser et de croire. Nous souhaitons te donner la possibilité de t'épanouir au sein de cette communauté empreinte de tolérance, de partage et d'ouverture d'esprit. Que tu puisses découvrir une famille spirituelle dans laquelle tu ne cesseras de t'interroger. Nous avons également demandé l'aide bienveillante de Clémence et Julie, les marraines de Joséphine, que nous retrouvons dans nos valeurs communes de simplicité, de fidélité et d'empathie, pour accompagner Joséphine le long de ce chemin tortueux et merveilleux qu'est la vie.
Merci. Alors Joséphine, c'est maintenant le moment où tu vas pouvoir venir avec moi et on va te présenter à cette nombreuse assemblée, parce que tu sais que maintenant tu as une nouvelle famille ici. C'était déjà le cas avant le baptême, hein, parce qu'avec papa et maman, vous faisiez partie de la famille. Mais là, c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que tu vois, maintenant, tu es... Tiens, tu peux embrasser tes grands-parents, au passage. Un petit bisou, ça fait pas de mal, voilà. La grande sœur qui est là, Suzanne, voilà. Et puis, voilà, alors je vous présente Joséphine. Elle est ici, dans sa maison, vous êtes sa famille spirituelle. Vous affirmez... Ah, j'ai des baisses de tension. Vous affirmerez qu'elle peut toujours retrouver sa place, quand bien même un jour elle viendrait à se séparer de cette communauté, ou bien qu'elle aurait du mal à revenir au christianisme. Eh bien, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place et qu'elle sera éternellement une enfant de Dieu. Par ce baptême, tout est possible maintenant pour elle. Tout s'ouvre devant elle. Et nous sommes donc ensemble pour lui dire notre amitié et notre solidarité dans la foi. Voilà Joséphine. Alors tu vois, il y en a encore par ici, attends, c'est quand même... Parce que si je ne viens pas ici, tu sais, ils se fâchent après. Ils me disent, mais nous, on n'a pas vu la baptiser, tu vois. Voilà. Voilà, ben écoutez, maintenant on va chanter pour... rendre hommage à ce moment particulier que nous avons vécu ensemble et faire aussi nos souhaits à Joséphine pour son baptême. Et donc nous allons chanter le cantique 204, les strophes 1 et 2. Voilà, merci. Vous pouvez, oui, vous pouvez, voilà. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble la lecture de l'Évangile aujourd'hui avec Matthieu, dans Matthieu 21, les strophes 1 à 11. Et puis c'est la grand-mère, une des grand-mères de Joséphine qui va pouvoir avec nous partager la prière qui suivra. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Alors ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et on disait « Qui est celui-ci ? » Les foules répondaient, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 115, mais cette fois-ci les strophes 1, 2, 3 et 5. nous prions ensemble.
Heureux les pauvres en esprit.
Alors peut-être avec ça c'est mieux.
Heureux les pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Voilà, et les enfants quittent le temple, non pas parce qu'ils sont fâchés, mais parce qu'ils vont avec Agnès pour le mini-culte. Et donc, un culte qui est adapté à leur âge et que les monitrices et Agnès vont animer pour eux. Voilà, bon culte, les enfants. Voilà, et les catéchumènes restent avec nous. Alors que dans l'évangile de Jean, Nathanaël se demandera quelque chose de bon peut-il sortir de Galilée. Ici, c'est un prophète de Galilée qu'acclament les gens qui entourent Jésus alors qu'il entre dans Jérusalem comme un roi, assis sur une ânesse avec à côté un ânon. Et c'est à lui que la foule crie « Hosanna », ce qui veut dire « de grâce, sauve ». Prophète, roi, messie, victime expiatoire, difficile de dire ce que porte cette monture dont l'évangile fait le centre de son récit. Chaque année, avant Pâques, nous vivons ce moment ambigu de l'entrée triomphale de Jésus sur un âne dans la ville qui le verra mourir. La foule qui l'acclame est peut-être celle la même qui un peu plus tard criera devant le prétoire qu'on le crucifie. Comme chaque année, nous avons cogité sur les détails donnés par le récit évangélique qui décrit cette entrée avec des différences selon les évangiles. Mais cette année, c'est collectivement que nous avons réfléchi sur ce texte avec les monitrices de l'école biblique dans la préparation même de cette séance d'aujourd'hui. Et c'est donc avec elle que nous avons pu déchiffrer tous les symboles, en tout cas une partie, que Matthieu a placés dans ce petit récit, qui pourrait ressembler fort à ceux des autres évangélistes. Et pourtant, Matthieu y place quelques nuances importantes pour la communauté mathéenne qui a été à l'origine de cet évangile. Deux sujets ont retenu notre attention lors de cette lecture collective. Bien sûr, cette ânesse et son petit. et bien sûr le fameux « Hosanna » crié par la foule. Quelle est donc la signification de cette entrée de Jésus sur un âne ? La première impression pour nous autres qui vivons au XXIe siècle est que cette ânesse et son ânon évoquent l'humilité, la pauvreté, la simplicité. Et oui, même si de moins en moins d'entre nous ont connu le bonnet d'âne qui couvrait la tête des cancres à l'école, il reste ancré dans notre culture comme la marque de l'ignorance, voire de la bêtise, censée s'attacher à l'animal qui les a inspirés. Mais heureusement, il n'y a pas qu'un seul âne qui porte un roi dans la Bible. Et dès la première lecture, nous sommes invités à aller lire dans le premier livre des rois le récit de l'onction de Salomon, celle qu'il avait reçue sur ordre de son père David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec le prophète Nathan, Benaïanou, fils de Yehoiada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Guion. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta derrière lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. C'est ici, sans conteste, une onction donnée à un roi qui ne monte pas sur un grand cheval bien glorieux, mais plutôt sur une mule. Le modèle de Salomon évoque le sage, mais aussi le roi qui connut le règne le plus paisible, sans doute, de tous les rois d'Israël. 30 années de paix, grâce au commerce et à la diplomatie entretenue avec les pays voisins. Il savait faire de ses voisins des amis. Alors peut-être qu'au bout du compte, le symbole de l'âne est convoqué ici pour dire la douceur et la docilité d'un animal qui porte sans broncher et n'a rien de féroce. Mais il y a d'autres ânesses importantes dans la Bible, celle de Balaam par exemple, dans le livre des Nombres. Et celle-ci n'a rien de docile. Tel l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, cette ânesse a une expérience spirituelle, et oui. Et elle voit l'ange de l'Éternel. Et elle est tellement perturbée par cette vision qu'elle tombe sur le chemin et elle tombe sur son propriétaire, l'emportant avec elle dans sa chute. Et quand il la rabroue de se conduire aussi mal sur le chemin, parce qu'il ne comprend pas qu'elle a vu un ange, elle parle, et voilà ce qu'elle dit. « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit lui aussi l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Il faut ici signaler que Balaam est lui aussi roi, il est roi de Moab, et que lui aussi a donc pour monture une ânesse. D'autres passages bibliques mettent en scène des ânesses, dans le Cantique de Déborah par exemple, dans le Livre des Juges. Il s'agit alors d'ânesses blanches qui portent les chefs des peuples et Déborah le chante dans son cantique. Là encore, on retrouve des dignitaires assis sur le dos d'une ânesse. Mais le plus évident est bien sûr cette prophétie de Zacharie qui annonce l'avènement du Messie, monté sur un âne, sur un ânon petit d'une ânesse. Le Messie, le prince de la paix annoncé par les prophètes, serait donc reconnaissable à sa monture. Mais quelle est la monture des rois dans l'histoire du Moyen-Orient? On penserait immédiatement au cheval et à la stature altière de cet animal par lequel nous représentons la monture de nombre de nos rois occidentaux. Mais voilà, c'est là que l'histoire nous apprend ce qui peut déchiffrer les énigmes symboliques que recèlent les textes bibliques. Et c'est la recherche d'une des monitrices d'éducation biblique qui a permis de trouver les éléments qui nous ont éclairés pour comprendre mieux ce texte de Matthieu. C'est un chercheur du CNRS, Bertrand Laffont, qui, dans sa recherche intitulée « Cheval, âne, onagre et mule dans la haute histoire mésopotamienne », qui apporte l'éclairage qui change radicalement notre vision de cet épisode de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. On y découvre que, depuis la plus haute antiquité, les Acadiens et les Amorites considéraient l'âne ou la mule comme un animal royal, mais aussi symbole de paix. Des textes anciens signalent que les rois montaient sur des ânes et que les dignitaires qui montent sur ces ânes sont appelés, avec un seul mot, chevaucheurs d'ânes. C'est même carrément une appellation pour signifier leur importance. Quant à l'ânon, le petit d'une ânesse, on le retrouve dans des rites de cérémonie sacrificielle pour sceller des alliances de paix dans le cadre d'accords diplomatiques. Ces alliances étaient conclues, dit-on, par le sang, comme disent les textes. Et les deux rois qui avaient fait alliance pouvaient déclarer « Il y a maintenant le sang entre nous ». Et pas le sang de n'importe quel animal, mais bien d'un ânon, le petit d'une ânesse, comme le spécifient certains textes d'accords diplomatiques très anciens. Ces ânons d'alliance, comme on les appelait, étaient sacrifiés dans le temple, et l'archéologie a retrouvé les restes de ces ânons au même endroit qu'on a retrouvé les fameux chiens dont nous avons déjà parlé ici à propos de la rencontre de Jésus avec la femme syro-cananéenne. Ainsi, l'âne, l'ânon font partie des animaux extrêmement importants dans toute la culture du Moyen-Orient. Nous voici donc avec des ânesses ou des mules comme monture royale et des ânons d'alliance qui servent à faire la paix. À n'en pas douter, ce n'est plus l'humilité qui est au cœur du symbole que nous présente l'évangile de Matthieu. Il ne s'agit pas d'un roi qui est abattu et tout petit par rapport à la foule, mais bien la noblesse qu'on prête à cet animal autochtone et la puissance pacificatrice que l'on prête à son petit ânon. Dans cette région du monde, les chevaux des guerriers viennent d'ailleurs et on les craint. Le cheval est donc signe de violence, signe de force qui vient de l'ennemi. Il représente la force ennemie, les guerres avec les puissances étrangères, mais n'ont en rien la symbolique qu'on prête aux ânes. Si l'évangile de Matthieu a bien été écrit dans la région d'Antioche sur l'Oronte, il l'a été dans ce territoire symbolique particulier où l'âne est un animal royal qu'on respecte tellement qu'on lui réserve même des sépultures dans les temples. C'est donc bien en roi que Matthieu présente Jésus. Et il n'y a cette fois-ci pas d'ambiguïté, pas d'ironie comme chez Jean. C'est donc sans ambiguïté aucune que la foule voit ce prophète qui devient roi. C'est donc une immense provocation ou alors une grande allégorie que nous fait partager l'évangile de Matthieu. Une provocation bien sûr pour les dignitaires de Jérusalem, qu'ils soient juifs ou romains. Jésus se met en scène en nouveau roi des Juifs. À moins que ce ne soit une scène propre à éveiller la conscience de ceux qui vivent à Antioche, ces exilés, réfugiés dans la même région, réfugiés au sud de l'ancienne Babylone et qui ne peuvent rentrer à Jérusalem, loin de la grande Jérusalem en exil, loin de leur ville sainte, anéantie depuis 70. Comme le récit des mages dans le même évangile, l'entrée de Jésus dans Jérusalem utilise des motifs propres à parler de ces exilés qui vivent dans un pays où les rois chevaucheurs de mules scellaient des alliances de paix en sacrifiant un ânon. Avec les souvenirs de la grande époque où les rois d'Israël entraient dans leur règne montés sur une mule ou une ânesse, Matthieu parle à ceux de la communauté de Jérusalem, mais aussi de son lieu d'exil et de la culture qui parcourt celui-ci. Peut-être est-ce pour parler aux gens d'Antioche qui n'ont pas connu Jésus qu'il parle de Jésus en disant « prophète de Nazareth, de Galilée », obligé de spécifier où cela se trouve et dire qu'il est prophète plutôt que de dire qu'il est fils de Dieu. Roi qui apporte la paix, Jésus est acclamé par une demande forte. Hosanna. On lui demande ce qu'on demande à Dieu, on lui demande le salut. Les rois d'Israël recevaient toujours l'onction d'un prophète lié au roi. Ici, le prophète de Nazareth a déjà reçu l'onction de Dieu lui-même. C'est lui qui demande à ses disciples d'aller lui chercher l'ânesse et l'ânon, à moins que ce ne soient les disciples qui soient devenus peut-être les prophètes de ce roi glorieux et pacificateur. Mais de quoi la foule veut-elle être sauvée? Du péché qui la sépare de Dieu? Un péché qui prenait toutes sortes de formes à cette époque, même la maladie, le handicap pouvaient être considérés comme la marque du péché. Mais pour la communauté de Matthieu, le salut serait que l'on puisse retourner à Jérusalem et que le grand désastre de la destruction du temple puisse être oublié et qu'on reconstruise sur les ruines. Avec ses branches agitées sur son chemin, Jésus est comme les Hébreux qui fêtent la fête de Soukhot, première escale du peuple juif dans le désert, là où le peuple a dormi sous les cabanes de branchages. Chemin de salut, de pardon du péché, Jésus synthétise en lui seul toutes les attentes d'un peuple en exil, se retrouvant errant dans le désert comme au premier jour d'une histoire du salut, comme ses ancêtres. Mais le roi qui entre dans Jérusalem dans ce récit matthéen n'est pas le roi des seuls juifs réfugiés à Antioche, ni même de ceux qui restent peut-être encore à Jérusalem. Il est le prince de paix de tous ceux qui veulent sceller une alliance avec Dieu, quelle que soit leur origine ou leur confession. Car ce n'est pas un symbole strictement juif que celui d'un roi monté sur une ânesse, et ce n'est pas un rite juif que de sacrifier des ânons pour obtenir la paix. Non, Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs, assis sur son ânesse, il est universel. Il devient le roi de tous ceux qui cherchent un salut. Il devient le porteur d'une attente, et c'est lui qui va payer de son propre sang cette paix tant demandée par cette foule qui l'acclame. Un roi dont le règne n'exclut personne du salut de Dieu. Et c'est à cause même de cet accueil inconditionnel qu'il sera supprimé par ceux qui veulent trier qui est de Dieu et qui n'en est pas. La foule qui demande la grâce et le salut n'a pas encore compris, pour l'obtenir, qu'il lui faudra d'abord l'accorder aux autres dans l'amour du prochain. Et sans doute, on retrouvera beaucoup d'entre eux crier pour que Jésus soit crucifié et qu'on délivre Barabbas. C'est cette grâce que nous annonçons quand nous baptisons nos enfants, cette grâce qui nous délivre, cette grâce qui fait que, enfin, cette liberté cherchée dans le désert par les anciens Hébreux est trouvée dans notre vie. C'est ce salut qu'apporte Jésus dans son règne de paix, un salut qui donne une vocation à notre vie par-delà les épreuves, par-delà les événements parfois absurdes, par-delà les conflits qui la traversent. Notre société aujourd'hui, notre pays a besoin de paix. Notre monde en a absolument besoin. Peut-être n'y a-t-il jamais eu d'époque où on n'ait pas besoin de paix. Mais aujourd'hui, nous, ici, nous nous rendons compte à quel point elle est précieuse, cette paix, parce qu'elle est menacée. Et nous avons envie de nous tourner vers un Sauveur qui nous montre le chemin pour être capable de faire la paix sans cesse, de la construire sans cesse, avec pour seule arme la parole, cette fameuse diplomatie de Salomon, si difficile à mettre en œuvre, si décriée à l'époque de Salomon et qui pourtant était tellement efficace. L'âne qui entre à Jérusalem dans l'évangile de Matthieu n'est donc pas un âne humble et soumis qui accepte tout et qui montre que Jésus s'en va comme une victime expiatoire qui aurait choisi son sort. Elle n'est pas non plus pour montrer la pauvreté et la faiblesse de ce roi Jésus. L'ânesse qui entre à Jérusalem dans le récit de Matthieu est ce qu'on pourrait appeler une ânesse christophore, une ânesse qui porte le Christ, un modèle pour nous tous, un modèle glorieux, un modèle joyeux, un modèle qui donne l'espérance à tous, un modèle pour nous tous qui nous comportons souvent comme des ânes battés et qui sommes pourtant appelés à devenir des ânesses christophores. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.
Voilà, nous allons partager quelques annonces ensemble. Notre président de l'entraide a été retenu à cause des perturbations. Pardon Gilles, mais excuse-moi. Alors, non seulement les oreilles, mais maintenant la vue. Je n'avais pas vu Gilles, alors viens Gilles, si tu veux faire les annonces avec moi, très bien. Tu as réussi à venir, voilà. C'était un peu sportif aussi pour ceux qui ne faisaient pas le marathon ce matin. Voilà.
Oui, bonjour à tous. Donc, je vois que vous n'avez pas eu les mêmes difficultés que moi pour arriver aujourd'hui. Donc, merci à tous. Merci ceux qui nous suivent également sur Internet. Donc, les annonces. Donc, tout à l'heure, ne partez pas tout de suite. Il y a un verre de l'amitié dans la grande sacristie. Ensuite, pour la semaine qui arrive, a priori uniquement la pause spirituelle à annoncer.
Toute la semaine sainte.
Voilà, et suite, voilà, après. Alors, on démarre avec les cultes de Pâques après, mais donc, jeudi, la pause spirituelle animée par notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer, ici même dans le temple, 12h30, 13h30. Voilà, et ensuite, ce même jeudi, rendez-vous au temple du foyer de l'âme, où c'est notre pasteur Béatrice Crélé-Romazir qui sera l'invité pour la prédication. Voilà. Le foyer de l'âme à 19h30 le jeudi soir. Le vendredi, c'est ici que ça se passe. Donc, avec cette fois-ci, c'est nous qui aurons le plaisir d'accueillir la pasteur Dominique Hernandez, hein, avec laquelle sera ça sera donc une lecture musicale de la Passion de Matthieu, selon Matthieu.
Alors, ce sera donc c'est pas la Passion selon Matthieu qui va être jouée ici. C'est David qui nous accompagnera, qui est ce matin avec nous, avec le chœur de l'Oratoire du Louvre. Et nous aurons donc une lecture faite par les catéchumènes qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont donc lire une version dialoguée de toute la Passion dans l'Évangile de Matthieu, avec évidemment des coupures musicales, qui sont plus que des coupures, qui sont des soutiens à la lecture et à la compréhension. Et donc David interviendra en nous proposant des improvisations en fonction du texte biblique. Et le chœur de l'oratoire interviendra avec des passages du Requiem de Fauré. Et vous aurez aussi la possibilité de chanter quelques cantiques aussi. Voilà. Donc c'est un moment extrêmement important pour les catéchumènes, je pense, qui vont nous offrir cette lecture et qui vont du coup pouvoir méditer ce moment d'évangile. Et puis pour nous tous, parce que la musique et la lecture sont des choses, quand elles s'allient, très belles. Voilà.
Et puis alors, pour terminer, quelques annonces pour l'entraide. Déjà pour vous... Alors, le goûter convivial est habituellement le second samedi du mois. Ici, donc, ça tombait sur le week-end de Pâques, donc il a été reporté au samedi d'après. Donc c'est normalement le 15, hein, donc vous êtes tous invités à ce goûter convivial. Donc... ça s'appelle le goûter convivial parce qu'on vous propose un petit goûter, mais c'est évidemment l'aspect sympathique et la rencontre qui sera bien sûr privilégiée. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Je relaie un appel de Denise Brigou pour son association Ensemble un cœur, donc qui collecte toujours des produits d'hygiène et de soins corporels, donc quel que soit le format. Donc n'hésitez pas. À l'occasion des prochains cultes et puis des festivités de Pâques, de venir nous apporter ce que vous pouvez. Hein, vous pouvez les déposer dans la première chapelle. Alors à ma droite ici, mais à votre gauche quand on entre. Voilà. Hein, donc pour que Denise puisse récupérer ses produits d'hygiène. Et puis la dernière annonce, c'est la collecte qui va avoir lieu dans un petit instant, donc qui est affectée aux actions de l'entraide. Donc pour ceux qui font un chèque, pensez bien à le mettre, à le libeller pour l'entraide. Voilà. Sinon, on ne peut pas l'encaisser. Voilà.
Ce sont deux associations différentes. Et donc l'entraide ici, quand vous avez un pot d'accueil, quand vous avez un repas dans une activité de biblique, quand vous avez toutes sortes de convivialités, c'est l'entraide qui s'en charge et qui soutient ces activités-là. Et donc aujourd'hui encore, le verre de l'amitié et puis d'autres activités évidemment qui sont liées à pallier les besoins de personnes qui viennent chercher des secours ici à l'entraide. Donc n'hésitez pas à soutenir cette association et si vous le souhaitez aussi à nous demander pour devenir membre de l'association, si vous êtes déjà membre de l'association de la Pérole, donc de l'Église. Voilà. fait avant. Voilà, alors pour la fin de la collecte, je vous invite à écouter notre ami qui vient de la patrouille d'Aigle, puisque les éclaireurs sont avec nous ce matin. Et donc, vous avez une vente de gâteaux ce matin.
Bonjour à tous. On est juste derrière et on fait une petite vente de gâteaux et de biscuits pour pouvoir nous racheter du matériel parce que il est très vieux et usé. Il nous manque pas mal d'outils.
En fait, c'est le matériel que vous aviez enfant, vous voyez. Donc, ils ont besoin de renouveler. Ah non, mais c'est parce que tu as des scouts ici qui ont été enfants scouts ici et qui ont sûrement usé le matériel que tu as maintenant. Voilà, alors soutenez les scouts et allez acheter vos gâteaux pour le dessert de ce midi à leur stand et ce sera non seulement très bon, mais une bonne action pour eux aussi.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi. Voilà, je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour Joséphine et pour sa famille. Que tout ce qui a été jusqu'ici transmis, vécu en famille, de ta parole, continue à traverser la vie de chacun et qu'elle puisse, en petite fille qu'elle est, grandir avec cette parole devant elle toujours, comme une promesse. Nous te demandons, Éternel, ton soutien et ton amour dans tout ce qu'elle pourra rencontrer dans sa vie, qui lui fera interroger cette foi que ses parents lui ont fait connaître. Nous te prions, Éternel, pour tous les peuples en guerre, tous ceux qui vivent en ce moment même dans la peur, le froid, la faim, tous ceux qui vivent aujourd'hui dans la violence, tous ceux qui vivent dans ces lieux où l'humanité est défigurée. Permets que nous soyons artisans de paix, que nous ne regardions pas toujours à nous seuls, à nous-mêmes, à nos intérêts propres et parfois si petits, mais que nous soyons capables de penser pour le bien commun, de désirer ce bien pour tous, de nous oublier un peu pour que les autres puissent vivre eux aussi en paix. Éternel, nous te prions pour nos enfants qui ont besoin de cet amour de Dieu dans leur vie. Permets que nous soyons de ceux qui leur annoncent cet amour et qui le vivent, pour qu'ils puissent voir qu'il s'agit vraiment d'une puissance de vie. Donne-nous d'être à notre façon des Christophores, que nous puissions porter par nos actions, nos paroles, nos façons d'être dans ce monde, la résurrection, la vie. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent ces turbulences sociales dans leur vie, qui réclament leurs droits. Nous te demandons, Éternel, la clarté et le dialogue, l'intelligence, pour que nous puissions ensemble vivre dans une société apaisée. Que la parole puisse s'échanger, circuler, que nous puissions les uns et les autres apprendre à sans cesse argumenter, raisonner pour pouvoir trouver des issues pour notre pays qui soient des issues pacifiées. Permet que nous soyons capables de préparer l'avenir de nos enfants. Rassemble-nous dans le même souhait de vouloir une société meilleure demain que nous construisons dès aujourd'hui. Nous te demandons, Éternel, ton soutien, ta lumière. Éclaire-nous et permets que nous soyons repris quand nous ne pensons qu'à nous égoïstement. Et ensemble, nous pouvons dire avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes ensemble dans cette ville sainte que nous portons en nous, dans cet espace où Dieu parle, dans ce temple du Seigneur, nous sommes dans la communion les uns avec les autres. Entrés dans cette semaine sainte, nous sommes en chemin vers ce qui peut ressusciter nos vies. Allons porter à l'extérieur de ce temple la parole d'une vie toujours renouvelée, d'un possible toujours devant nous et d'une espérance jamais contrariée. Allons porter à l'extérieur l'amour du prochain que Dieu nous commande. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous fait grâce et nous libère. Amen.